Et maintenant, nous allons passer aux conclusions de la journée par Monsieur Gokalp, directeur du musée de migration. Si.
Bonjour, ben merci. J'ai une petite dizaine de minutes, essayer de rebalayer cette journée et tout d'abord commencer par remercier les deux organisateurs, Mathias Dreyfus pour le musée et Régis Mérand pour le coordinateur scientifique de PIRA. Donc merci d'avoir porté et élaboré ce programme sur presque un an puisque la Covid a amené à le reporter. Évidemment, je voudrais aussi remercier Michel Vivorca et Philippe Portier qui sont les deux directeurs scientifiques de la plateforme PIRA, Frédéric Callens pour le service ressources du musée, Amélie Loiseau qui a permis la mise en place, l'équipe du service audiovisuel qui nous a accompagnés toute cette journée, et puis les soutiens à cet événement, notamment la DILCRA, et la DILCRA Sophie Eliséon et son prédécesseur Frédéric Potier, ainsi que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et surtout, tous ceux qui, dans la cour de cette journée, la journée de demain, ont pris un peu de leur précieux temps pour échanger avec le public, ainsi que les traductrices, traducteurs et interprètes. Le musée de l'immigration, en fait, portait beaucoup ce sujet, tout simplement parce que à l'immigration sont liées les questions de racisme, d'antisémitisme, mais aussi les questions de colonialisme, d'esclavagisme, et ce, d'autant plus que l'esclavagisme est une traite, est une migration forcée, et que le musée est dans un sublime palais. À la Porte Dorée, le Palais des Colonies, qui est un magnifique exemple de propagande coloniale. Donc toutes ces questions sont posées sur les murs tous les jours. Et le point de départ de ces deux journées était une rencontre avec Michel Vievorka, où on se disait, voilà, il y a des gens qui réfléchissent sur le racisme, l'antisémitisme, il y a des musées, mais comment travaillent-ils ensemble et quelle est l'efficacité? C'est-à-dire que quand on rentre dans un musée, et en ressortant moins raciste, en ressortant moins antisémite, quelle est la pertinence de ce type de dispositif? Est-ce le meilleur endroit pour faire changer les mentalités? Est-ce qu'on rentre dans ce type d'exposition lorsqu'on est raciste ou antisémite? Est-ce que, comme disait Dominique Taffin, il ne vaut pas mieux aller dans des bibliothèques, dans des archives? Ou comme dirait Christine Chivalon, est-ce que le musée ne finalement ne neutralise pas ce qu'il montre? Toutes ces questions qu'on a abordées aujourd'hui et que je voulais résumer en quelques mots et puis aussi faire quelques ouvertures pour parler des manques qu'on a pu rencontrer, voir aussi comment cette journée a permis de catégoriser en fait ou de différencier en ce qui est de l'ordre du mémorial, du musée ou du lieu de circulation des idées comme le proposait Nicolas Bancel ou même des centres d'interprétation. Souligner aussi la disjonction qu'on avait souligné entre les musées sur le racisme, l'antisémitisme, l'esclavage, qui sont finalement des luttes similaires, mais différentes, notamment dans leur histoire. Et il convient, comme l'ont précisé dès ce matin Michel Vévorka et Pape Ndiaye, d'en penser les spécificités, de ne pas les gommer et de continuer à les caractériser. Les musées aussi n'ont pas la même ampleur. Il est sûr que les musées sur l'antisémitisme sont peut-être les plus structurés. Tout cela, tout simplement, parce que ça répond à l'Holocauste, qui est très récent. Alors que l'esclavage est pris en charge différemment, plus par le biais du savoir, notamment en France, mais parfois aussi avec une implication sociale assez forte, comme aux États-Unis. Et Nicolas Bancel a encore souligné qu'il y a plus d'une centaine de musées de l'esclavage aux États-Unis, alors qu'à Paris, par exemple, il n'y a pas de lieu qui puisse en parler de manière convenable. Il y a donc un lien entre ces musées et une nécessité sociale. Et on pourrait aussi s'interroger sur l'implication sociale de ces musées. Des musées de société, comme on dit, des musées engagés, comme souhaite Christine Chivalon, et qui renvoient en fait à la nouvelle définition ou à la proposition de nouvelle définition des musées par l'ICOM, qui indique les musées sont des lieux de démocratisation inclusif et polyphonique, dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent, ils sont les dépositaires d'artefacts et de spécimens pour la société. Et pourtant, même si cette division très ancrée dans la société est celle proposée, on a pu noter que l'implication des musées dans le mouvement Black Lives Matter, il y a à peine un an, a été très fort aux États-Unis, en Suisse aussi, de manière surprenante, comme le soutenait Pape Ndiaye, mais qu'en France, il a été quasiment inexistant, pour des raisons qui resteraient encore à préciser. Donc il faut aussi se poser la question de cette conception du musée comme un lieu impliqué socialement, est-ce que c'est une volonté en France? Est-ce que chaque pays a sa conception différente du musée? toutes ces questions qui finalement ont pu être soulevées avec ce colloque transversal qui réunissait des intervenants de tout pays d'Europe. Autre question qui a été assez souvent soulevée, c'est qu'est-ce qu'on peut montrer? Anna Wieborka demandait que cherche-t-on quand on représente? Est-ce qu'on cherche à dire des vérités ou à donner à comprendre? Est-ce qu'on donne des outils pour la réflexion? Est-ce qu'on cherche à imposer une opinion ou au contraire à donner des outils pour créer cette opinion? Est-ce qu'on cherche à construire une histoire canonique? Ou bien faut-il générer des opinions diverses et même accepter les opinions qui sont à l'opposé des siennes? L'importance de la nuance aussi. Une intervenante précisait que Alice Coquelin précisait que le racisme était finalement la plus grande erreur de la science. Et on voit à quel point, même avec la science, il n'est pas évident de transmettre et de faire comprendre. D'autres questions aussi, toujours qu'est-ce qu'on peut montrer? Une question qui était assez souvent, est-ce qu'on peut montrer des images antisémites au risque de perpétrer ces stéréotypes? Paul Salmona disait qu'il n'y avait qu'une seule image antisémite au MAGE. Le musée belge ne montrait que des images antisémites, mais à plat, donc avec une contextualisation différente. Voilà, est-ce qu'on peut montrer aussi l'affiche du film Le Juif Zeus, par exemple? Au musée de l'immigration, on refait notre parcours permanent, on a décidé de ne pas montrer ce type de stéréotypes pour ne pas les répéter. Et pourtant, par exemple, au musée d'histoire de Berlin, où la question a dû se poser de manière extrêmement précise, l'affiche est présente. Donc chaque pays a ses approches différentes. Et le commissaire d'exposition The Color Line, Daniel Soutif, qui interviendra demain, précisait que dans son exposition, il y a des images racistes, des caricatures qui n'auraient jamais pu être montrées aux États-Unis. Et l'humour, qui est aussi une des meilleures armes contre le racisme, contre l'antisémitisme, et aussi un des meilleurs vecteurs de propagation, notamment à travers les caricatures. Donc ces questions sont fines, que montrer? C'est une question d'exposition, ce qui était le point de départ de ces deux journées, et qui se pose encore à n'importe quel commissaire d'exposition qui travaille notamment lorsqu'il travaille avec des scientifiques. Quelles sont aussi les voies qui ont été abordées? Autre question qui a été abordée au sein de cette journée. Quelles sont les voies qui sont abordées prises pour changer les regards? Changer les regards, c'est le terme qui est accolé au musée de l'immigration. Monsieur Langanet précisait, les races, ce n'est pas ce que vous croyez. Donc, comment changer les croyances? Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile. Les stéréotypes, les préjugés sont les choses les plus ancrées au plus profond de nous-mêmes. Comment les faire changer? Et c'est aussi, là aussi, un des grands enjeux de ces musées. Est-ce qu'il faut-il utiliser la science qui, comme on l'a préciser, peut être vecteur d'erreur. Comment transformer quelque chose aussi complexe que la science à des enfants, alors même que l'on sait que les musées, un des grands enjeux des musées, c'est la pédagogie. Comment faire évoluer le visiteur? Est-ce qu'il faut utiliser l'émotion? Est-ce qu'il faut utiliser le savoir? Est-ce qu'il faut aussi ne pas se méfier de l'effet spectaculaire de certains musées? On a cité le musée de la terreur à Budapest, qui joue du spectaculaire et qui va mélanger antisémitisme, nazi et communisme. Donc voilà, comment toucher le visiteur sans lui imposer une vérité? Comment jouer sur ses émotions sans jouer de l'émotionnel? Ce sont des questions qui ont été soulevées dans ces journées. On pense évidemment aussi à cette exposition Art dégénéré qui était à Munich en 1937, présentant les artistes juifs ou bolcheviques, qui était censé montrer tout ce que l'horreur des artistes dégénérés, mais qui fut pendant longtemps l'exposition d'art contemporain la plus fréquentée. Donc, faire attention effectivement à jouer avec cette fascination du mal, parfois. Et puis aussi, peut-être finir sur des musées sur les racismes qui n'existent pas, et qui n'ont pas ces racismes, parce que les racismes existent bien, mais ces musées. Il y a beaucoup de racisme, de musées qui se traitent du racisme anti-noir, de l'antisémitisme, mais je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main les musées qui traitent du racisme anti-asiatique, du racisme envers les musulmans, du racisme anti-rom, et pourtant qui sont des racismes extrêmement forts et en pleine expansion malheureusement. Pourquoi aussi, on pourrait s'interroger, pourquoi ces communautés ou ces populations ne bénéficient pas des mêmes traitements, des mêmes interrogations? Et peut-être que demain, certaines tables rondes, notamment une consacrée aux Roms, nous ouvrira des perspectives sur ces questions. C'est finalement toutes ces questions qui ont été soulevées, et je remercie encore les intervenants de leur précision et de leur savoir, et surtout ne pas oublier que l'objectif fondamental de ces musées, de les personnes qui sont réunies aujourd'hui, ce n'est pas mettre en concurrence les mémoires, ne pas penser qu'il y a un racisme qu'il faut mieux défendre que d'autres, ne pas opposer, mais plutôt voir comment en fait contribuer à ce qui est finalement ce qui nous réunit tous, le vivre ensemble, et peut-être se poser les questions de savoir si ces musées avaient existé avant 1940, peut-être qu'aujourd'hui nous serions ailleurs. Voilà. Je vous remercie et j'espère que vous aurez encore l'attention pour suivre demain, ou en tout cas proposer à vos proches de le faire. Voilà. Merci, merci à vous, et je repasse la dernière parole à Régis et Mathias.
Merci Sébastien, Mathias, hein, je ne sais pas si tu veux dire un mot.
Merci beaucoup pour cet exercice toujours extrêmement délicat de résumer presque en temps réel les débats d'une journée. Donc, vous y êtes pris avec brio, Sébastien, je vous en remercie. Et donc, je donne rendez-vous à tout le monde demain matin, 9h30. On reprend les débats avec un autre lien Zoom hein, que vous avez dû recevoir quand vous êtes inscrite. Un petit changement dans le programme par rapport à ce qui a été annoncé dans le programme en ligne. Tout simplement le fait, Sébastien en a un petit peu parlé, que Daniel Soutif donc, viendra renforcer les effectifs de la table ronde qui ouvrira la journée de demain sur exposer la lutte des Noirs américains pour les droits civiques. Donc, on en est très heureux. Et l'autre modification, c'est la présence, donc, en fin de colloque, de Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, donc, qui viendra apporter un mot de conclusion à ces deux journées. Voilà, je remercie encore une fois tout le monde. Je remercie Régis, je remercie l'équipe audiovisuelle de la FMSH, les organisateurs, les participants, évidemment, aux tables rondes, les modérateurs discutants qui ont fait un travail remarquable, et évidemment à vous, participants, qui avez assisté donc à cette journée. Et donc, je vous dis à demain. Merci.